Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Depuis quelques mois, nous partageons avec vous l'expérience des pères du désert, qui vécurent essentiellement au Moyen-Orient et en Russie, depuis le IIIe siècle jusqu'à nos jours. Leurs lettres s'adressent à tous, et ainsi qu'aux moines de leur monastère. Elles expriment avec intensité leur expérience de Dieu. Tous ces pères nous enseignent comment quitter le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Aujourd'hui, nous poursuivons avec Saint Jean Cassien. Il nous parlera du royaume de Dieu. Il nous parlera également des pensées élevées.
Vigilance à reconnaître et filtrer les pensées qui nous occupent.
Tout gît dans le sanctuaire profond de l'âme. Lorsque le diable en a été chassé et que les vices n'y règnent plus, conséquemment s'établit en nous le règne de Dieu. Le règne de Dieu, dit l'évangéliste, ne viendra pas de telle manière qu'on puisse l'apercevoir des yeux. On ne dira point « il est ici, il est là ». En vérité, je vous le dis, le règne de Dieu est au-dedans de vous. Or, en nous, il ne peut y avoir que la connaissance ou l'ignorance de la vérité et l'amour du vice ou de la vertu. Par quoi nous donnons la royauté de notre cœur, soit au diable, soit au Christ. L'apôtre, à son tour, décrit ainsi la nature de ce règne. Le règne de Dieu n'est pas dans le manger ni le boire. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Mon ami Germain posa la question « Comment expliquer que même malgré nous, et qui plus est à notre insu, les pensées superflues se glissent en nous d'une allure si subtile et discrète que ce ne soit pas une médiocre difficulté ? Je ne dis pas seulement de les chasser, mais d'en avoir conscience et de les reconnaître. Est-il possible que l'esprit en soit jamais dégagé et n'ait plus à souffrir d'illusions de ce genre ? » Notre maître Moïse répondit, Il est impossible, j'en conviens, que l'esprit ne soit traversé de pensées multiples, mais il reste loisible à qui veut en prendre la peine de les accueillir ou de les rejeter. Leur naissance ne dépend pas de nous entièrement, mais nous sommes bien les maîtres de les approuver et de les accueillir. Et parce que j'ai dit qu'il est impossible que l'esprit ne soit assailli de multiples pensées, il ne faudrait pas pour autant les mettre entièrement au compte du hasard de leurs attaques, ou des esprits malins qui prennent à tâche de les glisser en nous, car alors c'en serait fait du libre arbitre, et le soin de nous corriger nous deviendrait impossible. Je déclare au contraire qu'il dépend de nous, pour une grande part, de hausser le ton de nos pensées, et qu'elles soient saintes et spirituelles, ou terrestres et charnelles. Aussi bien, la lecture assidue et la continuelle méditation des Écritures n'a-t-elle point d'autre but que de procurer l'éclosion dans notre mémoire des pensées divines. Le chant répété des psaumes est destiné à nourrir une componction continuelle et notre empressement aux veilles, au jeûne et à la prière a pour dessein d'affiner tellement l'âme qu'elle perd le goût des choses terrestres et ne veuille plus contempler que les célestes. Que si nous laissant guider et gagner par la négligence, nous quittions ces saints exercices, on verrait par une suite fatale l'âme épaissie de la malpropreté des vices, penchée bientôt du côté de la chair pour enfin s'y ruer. Cet exercice du cœur pourrait, non sans justesse, se comparer aux meules que les eaux d'un canal, en se précipitant, actionnent d'un mouvement giratoire. Elles ne peuvent cesser leur travail, forcées qu'elles sont de tourner par la poussée des eaux. Cependant, il est au pouvoir du maître du moulin de faire moudre à son gré du blé, de l'orge ou de l'ivraie. Ce qui est hors de doute, c'est qu'elles ne moudront que ce qui leur sera fourni par celui à qui le soin de cet ouvrage a été commis. De même, l'âme se sent-elle pressée durant la vie présente. De toutes parts, les torrents des tentations se précipitent et lui impriment le mouvement. C'est en elle un flot continu de pensées bouillonnantes. Mais le soin est commis à son zèle et à sa diligence de voir lesquelles elle doit admettre et lesquelles elle doit rechercher. Si, comme je l'ai dit, nous recourons à la méditation constante des Saintes Écritures et élevons notre mémoire au souvenir des réalités surnaturelles, au désir de la perfection et à l'espérance de la future béatitude, nécessairement, les pensées qui naîtront de là seront spirituelles et maintiendront l'âme dans les hauteurs où elle aura vécu. Si au contraire, cédant à la paresse et à la négligence, nous nous laissons envahir de pensées coupables et prendre par les conversations inutiles, ou nous embarrassons des soins de ce monde et des sollicitudes superflues, de là germera comme une sorte d'ivraie. Travail funeste à notre cœur que de broyer ce grain, et la parole du Seigneur, notre Sauveur, se vérifiera en nous. Où sera le trésor de nos œuvres et de nos buts, là aussi nécessairement demeurera notre cœur. Nous devons remarquer avant tout qu'il y a trois principes de nos pensées. Dieu, le démon et nous-mêmes.
Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío, luz. Luna, luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la calavera pa matar este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia y el cordel la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé, luna, 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 menguante. Luna, 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 llena.
Tu dis, je suis riche, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
La trame de nos pensées naît du diable lorsqu'il s'efforce de provoquer notre chute par l'attrait du vice ou par le moyen de secrètes embûches déployant à nous présenter le mal sous la couleur du bien. Toute son artificieuse et subtile habileté et se transformant à nos yeux en ange de lumière. Nous en avons encore un exemple dans ce trait de l'Évangile. Durant la scène, lorsque déjà le diable avait mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le dessein de livrer le Seigneur, puis, avec la bouchée, Satan entra en lui. Pierre, dans le même sens, dit à Anani, pourquoi Satan a-t-il tenté votre cœur ? Pour vous faire mentir à l'Esprit Saint ? Telle enfin cette parole que nous lisons dans l'Évangile, mais que bien longtemps auparavant l'Ecclésiaste avait dite. Si l'Esprit de celui qui commande se soulève contre toi, ne quitte point ta place. Et cet autre que l'Esprit immonde dit à Dieu contre Achab au troisième livre des Rois, « Je sortirai. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Le Seigneur disait aux pharisiens, pourquoi pensez-vous le mal dans vos cœurs ? Il nous faut être continuellement en éveil quant à cette triple cause de nos pensées, Dieu, le diable et nous-mêmes, et appliquer à toutes celles qui émergent dans notre cœur un sagace discernement. Nous en rechercherons dès le principe l'origine, la cause, l'auteur, afin de considérer, d'après le mérite de celui qui les suggère, l'accueil que nous devons leur faire. Ainsi deviendrons-nous, selon le précepte du Seigneur, d'habiles changeurs.
Thank you.
démon tâche encore à nous jouer par le moyen de pièces de contrefaçon en nous incitant à telle œuvre qui ne porte pas la frappe authentique des anciens et sous prétexte de vertu fait aboutir au vice. Ce sont des jeûnes immodérés et à contre-temps, des veilles excessives, des prières mal ordonnées, une lecture mal à propos, autant de mirages dont il se sert pour nous attirer à une fin malheureuse. Aux trois renoncements dont parle Jean Cassien correspondent exactement les trois livres de Salomon. Au premier renoncement conviennent les proverbes qui s'appliquent à retrancher les biens terrestres et les vices charnels. Au deuxième renoncement, l'Ecclésiaste, où il est proclamé que tout est vanité de ce qui se fait sous le soleil. Au troisième, le Cantique des Cantiques, dans lequel l'âme, dépassant tout le visible, s'unit déjà par la contemplation des célestes mystères au Verbe de Dieu. Le père dont vous êtes les fils, c'est le diable, comme on dit dans l'Évangile, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le Seigneur dit à son père, « Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. » Et à ses apôtres même, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. » Le signe que nous aurons obtenu réellement la perfection de ce troisième renoncement, c'est celui-ci. En notre âme, nulle trace désormais de cette sorte d'embonpoint de la vie animale et charnelle dont elle était tout appesantie. Mais une main savante a limé chez elle et usé tout sentiment et disposition terrestre. Et la méditation constante des choses de Dieu, l'exercice de la contemplation, l'ont si bien fait passer dans le monde de l'invisible que, tout attentive aux choses célestes et incorporelles, elle n'a plus conscience de son vêtement de chair ni du lieu qu'il occupe. Ravissements et transports admirables. Louis demeure insensible aux voix du dehors. Les hommes passent et la vue n'en est pas impressionnée. Que dis-je ? À côté, en face de nous, se dressent les objets et les masses les plus énormes et nos yeux de chair ne les aperçoivent même pas. Ainsi donc, un renoncement purement extérieur ne nous servirait de rien. Ce serait sortir d'Égypte de corps seulement. Mais il faut joindre le renoncement du cœur. Des deux, le plus élevé et le plus utile aussi. Concernant les richesses, il en est aussi de bonnes. Les acquérir est la marque d'une grande vertu et d'un rare mérite. David loue le juste qui les possède. La race des justes sera bénie. Il y a dans sa maison gloire et richesse, et sa justice demeure à jamais. Il est encore écrit « La richesse d'un homme est la rançon de sa vie ». C'est d'elle également qu'il s'agit dans l'Apocalypse, lorsque celui qui ne le possède point est blâmé de sa pauvreté et de sa nudité. « Je vais te vomir de ma bouche. Tu dis « Je suis riche, opulent, rien ne me manque ». Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or éprouvé par le feu afin de devenir riche et de te couvrir de vêtements blancs et que ne paraisse plus la honte de ta nudité. Ainsi donc, lorsque nous disons adieu aux richesses matérielles, ce ne sont pas des biens à nous que nous laissons, mais des biens étrangers, encore que nous puissions nous glorifier de les avoir acquis par notre labeur ou reçus de nos parents en héritage. Je vous l'ai dit, rien n'est à nous que ce qui est en notre cœur et fait un avec notre âme, en sorte qu'il ne soit au pouvoir de personne de nous le ravir.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llego al sur, como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur.
Notre zèle sans le Seigneur n'est rien.
Soyons certains que mettrions-nous à pratiquer toute vertu les plus persévérants efforts, nous n'atteindrons point par notre zèle et notre activité personnelle à la perfection, et que tout le labeur de l'homme reste insuffisant à lui gagner le prix sublime de la béatitude. Il y faut la coopération du Seigneur. Il faut qu'il dirige notre cœur au bien. Aussi la prière de David doit-elle être à toute heure sur nos lèvres. Affermissez mes pas dans vos sentiers, afin qu'ils ne chancellent point. Il a dressé mes pieds sur le rocher, il a affermi mes pas. Ignorance du bien ou séduction des passions, notre libre arbitre n'a que trop de pente au mal. Mais celui qui gouverne invisiblement l'esprit de l'homme daignera le restituer au goût de la vertu. Le prophète nous fait voir dans le même verset cette double vérité. On m'a poussé violemment pour me faire tomber. Voilà l'infirmité du libre arbitre. Mais le Seigneur m'a soutenu. C'est la continuelle assistance du Seigneur. De peur que notre libre arbitre ne nous mène à une ruine complète, il nous tend pour ainsi dire la main, lorsqu'il nous voit chanceler, afin de nous soutenir et d'assurer nos pas. Écoutons encore le psalmiste. Lorsque je disais, mon pied chancelle, par l'instabilité du libre arbitre, votre miséricorde, Seigneur, me venait en aide. De nouveau, il joint à l'expression de son inconstance celle du secours divin, en confessant que si sa foi n'a pas chancelé, ce n'est point du tout par son fait, mais grâce à la miséricorde du Seigneur. Au milieu des angoisses qui étreignaient mon cœur, et dont le libre arbitre était la cause, Vos consolations ont réjoui mon âme, comme un souffle de votre bouche. Elles ont pénétré dans mon cœur. Et me découvrant la vue des biens à venir que vous avez préparés à ceux qui souffrent pour votre nom, voici qu'elles ont banni l'anxiété et m'ont encore rempli d'une joie souveraine. Si le Seigneur n'eût été mon appui, il s'en fallait de peu que mon âme ne tombât en enfer. Il témoigne donc que son libre arbitre corrompu l'eût conduite en enfer si l'aide et la protection divine ne lui eussent apporté le salut. Le Seigneur, et non pas le libre arbitre, a fermé les pas de l'homme. Si le juste tombe par le fait de son libre arbitre, évidemment, il ne se brisera pas. Pourquoi ? Parce que le Seigneur le soutient de sa main. N'est-ce pas dire ouvertement, nul parmi les justes ne se suffit à soi-même pour obtenir la justice. Mais la divine clémence doit à toute heure soutenir de sa main ses pas chancelants et près de défaillir, de peur que l'infirmité de son libre arbitre ne lui fasse perdre l'équilibre et qu'une fois tombé, il ne périsse sans retour. Jamais on n'entendit les saints témoigner qu'ils eussent eux-mêmes trouvé leur voie, tandis qu'ils marchaient, le regard tendu vers le progrès et la consommation dans les vertus, mais plutôt imploraient-ils du Seigneur qu'il les mît dans la vraie direction. « Conduisez-moi dans votre vérité, disait-il, dirigez mes pas devant votre face. » Un autre, non content de s'appuyer sur la foi, prétend connaître d'expérience cette vérité et l'avoir saisie, pour ainsi dire, dans la réalité même des choses. J'ai connu, Seigneur, que l'homme n'est pas maître de sa voie et qu'il ne peut se faire gloire de marcher ni de diriger ses pas. Mais le Seigneur en personne ne dit-il pas à Israël : c'est moi qu'il dirigerai, tel un sapin verdoyant. C'est de moi que procède ton fruit. À notre prochain rendez-vous avec Saint Jean Cassien, rien ne se fait sans la grâce de Dieu. Ce seront encore des pensées extraites de ses conférences.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène.